Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à tous. Aujourd'hui et pour cet été, nous vous proposons les meilleurs moments d'Accent d'Europe. La Turquie et la Grèce, deux pays en première ligne dans le drame des migrants qui fuient la guerre ou la pauvreté et tentent de gagner l'Europe. On parle souvent des morts tragiques, moins de ces citoyens qui font tout pour les éviter. Sur l'île de Lesbos, en Grèce, deux habitants ont été symboliquement sélectionnés pour le prix Nobel de la paix. Il s'agit d'un pêcheur et d'une grand-mère qui ont aidé les migrants et qui sont devenus un symbole de la nécessaire solidarité. Charlotte Stivenard les a rencontrés.
Au village de Skalasik à Minias, au nord de l'île de Lesbos, deux grands-mères sont désormais des stars médiatiques. Elles accueillent les journalistes avec beaucoup de naturel. Emilia Kamvisi et Maritza Mavrapidou ont plus de 80 ans. Cet été, elles ont vu des réfugiés débarquer par milliers dans leur village. C'est Emilia, la plus jeune, qui a été proposée au prix Nobel de la paix. Une photo trône sur la table de son salon. On y voit les deux amies assises sur un banc avec une autre comparse en robe et chaussettes remontées jusqu'au mollet. Emilia Kamvisi nourrit un bébé au biberon pendant que la mère, une réfugiée, en profite pour remettre son voile en place. Les deux se souviennent très bien de cette journée du 17 octobre où cette Syrienne est arrivée encore trempée du bateau.
On lui a dit « Laisse le petit et va te changer. Il y a des vêtements, il y a du thé, il y a de tout. » Elle nous l'a laissé. Sur le bateau, elle ne pouvait pas se reposer avec son enfant dans les bras. Quand elle est revenue, le nourrisson était grognon. Il n'y avait personne qui parlait anglais. Alors, avec des signes, je lui ai fait comprendre que l'enfant avait faim. Je lui ai dit « Va là-bas, il y a du lait ». Elle est allée tout préparer, mais le biberon était trop chaud pour le bébé. Je lui ai dit de le refroidir sous le robinet et son bébé a pu boire. Il avait faim.
Un vrai travail d'équipe.
Oui, vous savez, nous y allions chaque jour pour voir les réfugiés. Des gens très bien, ils nous embrassaient.
Et il y avait beaucoup d'enfants ?
Oui, beaucoup d'enfants, comme nos mères à l'époque.
2-3 ans, beaucoup d'enfants.
Si Emilia et Maritza ont autant d'empathie pour ces nouveaux venus, c'est peut-être parce qu'elles sont elles-mêmes filles de réfugiés. Leurs mères sont arrivées d'Asie mineure en 1922. Des chrétiennes orthodoxes grecques expulsées de Turquie par Kemal Atatürk. Fotini, la fille d'Emilia Kamvisi, connaissait ces histoires, mais de loin seulement.
Nous savions grâce au livre d'histoire qu'il y avait eu une vague de réfugiés. On savait que toutes ces maisons, c'était des maisons de réfugiés. Toutes ces histoires sont ressorties avec la vague de réfugiés actuelle. Maintenant, on demande des détails, car nos mères ne nous ont pas dit beaucoup de choses. On veut savoir ce qui s'est passé et comment.
Dans leur village, les deux retraitées vivent avec 350 euros par mois. Elles ne comprennent pas très bien pourquoi on en fait des héroïnes. Ce que vous avez fait, c'est quelque chose de grand ?
Non, ce n'est pas grand. Non, on l'a fait pour d'autres bébés aussi. On voulait juste faire quelque chose de bien, disons aider.
Le bébé, il voulait être au chaud dans les bras avec un biberon. Il ne voulait rien d'autre, pas de chaussures, de vêtements. Il voulait qu'on le tienne au chaud.
Alors que le temps est mauvais, les réfugiés sont moins nombreux à débarquer sur l'île de Lesbos. La mer est dangereuse. L'autre candidat au prix Nobel de la paix qui habite au village le sait bien. Stratis Valamios est pêcheur. Alors que le vent souffle, il n'est pas sorti en mer. Ce soir, ce quarantenaire à la barbe de quelques jours travaille comme cuisinier dans une des tavernes du village. En mer, comme d'autres pêcheurs du coin, il a passé son temps à sauver des réfugiés en difficulté, entassés à 60 personnes dans des bateaux d'une quinzaine de places. Il n'y voit rien d'héroïque.
On me demande beaucoup pourquoi tu aides. Moi je dis comment c'est possible de ne pas aider, c'est-à-dire de pêcher, entendre quelqu'un appeler à l'aide et se dire il n'y a rien d'urgent. Tu sais ce qu'il faut faire, ce n'est pas possible d'agir autrement.
Des images choquantes d'enfants noyés ou de gens qui pleurent, il en a vu. Mais ce qu'il ne comprend pas, c'est qu'on ne s'attaque pas aux passeurs depuis les côtes turques. Ils sont faciles à reconnaître, dit-il.
Eux, ils ont des bateaux rapides, avec des gros moteurs. Lorsque les gardes-côtes sont loin ou qu'il n'y a personne, en 5 minutes, ils chargent les réfugiés sur les bateaux et ils repartent. Ils laissent les gens en mer. Quand on pêche, combien de fois on assiste à cette scène en ayant peur? Car il n'est pas exclu que ces passeurs aient une arme. Je dirais que si tu fais ce genre de trafic, tu es certainement armé.
Aujourd'hui, les choses sont plus calmes, l'aide se poursuit, mais elle est plus organisée. Les touristes pourraient presque oublier que Lesbos vit une grave crise humanitaire, dit-il.
L'été dernier, lorsqu'il y avait beaucoup de barques, beaucoup de réfugiés, il n'y avait pas tous ces bénévoles. Les secours n'étaient pas organisés. Tu voyais les barques qui arrivaient et ensuite les déchets qui restaient là. Tu allais à Mytilène et tu voyais 1000 personnes qui marchaient et qui dormaient sur la route. Les choses ne sont plus comme ça maintenant. Il y a des camionnettes pour transporter les migrants. Ils peuvent emmener les gamins chez le médecin. Il y a les camps. Et sur les plages, il peut y avoir 50 barques qui arrivent, mais en une heure, elles sont nettoyées. Regarde, tu le vois, c'est comme si personne n'était jamais passé par ici.
Sur les plages, plus un gilet de sauvetage à l'horizon. Ce soir-là, les bateaux à quai tanguent dangereusement, mais même les jours de tempête, les passeurs continuent d'envoyer les réfugiés braver la mort. Un jour plus tôt, un Zodiac est arrivé à 3 heures du matin sur une plage au sud de l'île.
Et en Turquie, on compte 2,7 millions de Syriens réfugiés, dont la moitié de mineurs, des enfants, des nouveau-nés, dont l'avenir est aussi incertain que celui de leurs parents. À Istanbul, Anand Lawar est allé rencontrer deux jeunes mamans syriennes.
Au printemps 2013, lorsque la jeune Noura a quitté Alep en Syrie pour épouser son fiancé réfugié en Turquie, elle n'imaginait rien de sa vie d'aujourd'hui. Elle se souvient d'une promenade dans un parc d'Istanbul, où Mohamed vivait depuis un an et demi.
Mon mari m'avait dit, quand nous aurons des enfants, nous les emmènerons dans ce parc. Et moi, j'avais pensé, d'ici là, nous serons rentrés en Syrie. Mais nous sommes toujours là.
À 25 ans, cette femme au visage poupon, nouée dans un foulard jaune, est jeune maman de deux enfants. Medina, 2 ans, et Mercan, 10 mois. Toutes deux nées en Turquie.
J'ai l'impression d'avoir vieilli de 20 ans. En Syrie, nous n'avions pas de problème de loyer. Le travail d'une personne suffisait à en nourrir 10. Ici, chaque centime compte. J'angoisse à l'idée que mes filles tombent malades et qu'il faille payer des traitements coûteux. Je fais très attention.
Les filles de Noura font partie des quelques 152 000 enfants syriens nés en Turquie depuis le début de la guerre. Selon l'UNICEF, la moitié des 2,7 millions de Syriens réfugiés dans le pays sont des enfants. Près de 90% d'entre eux vivent en dehors des camps, souvent dans une détresse profonde. La Turquie a fait des efforts pour intégrer ces enfants qui grandissent sur son territoire. Comme tous les petits Syriens, les filles de Noura pourront rejoindre l'école publique quand elles en auront l'âge. Les soins de base sont pris en charge dans les hôpitaux de l'État. Son mari, Mohamed, travaille dans le textile pour 620 euros par mois. Il n'est pas déclaré alors que la loi l'autorise. Son salaire suffit juste à nourrir la famille.
Si c'était à refaire, nous attendrions pour fonder une famille. Ici, j'aurais pu travailler, bien sûr. Si nous étions en Syrie, j'aurais mes parents, mes tantes, mes cousines pour m'aider. Mais ici, personne ne peut s'occuper de mes enfants. Donc je reste à la maison toute la journée avec mes filles. Je ne sors quasiment pas. Parfois, je m'ennuie. J'aimerais prendre l'air, voir du monde. Avec les enfants, je ne peux pas.
À 10 kilomètres de là, dans un café aux tables rouges, une autre mère nourrit son enfant de 10 mois. Najwa, 40 ans, était une combattante de l'armée syrienne libre, la Guevara d'Alep, comme ses amis l'appellent encore. Il y a 2 ans, elle a fui en Turquie. Pour maintenir le lien entre les exilés, Najwa a ouvert un café dans le quartier de Fatih, au cœur d'Istanbul. Ce soir-là, on y lit des poèmes, tandis que le petit Yazan gigote dans son trotteur. Najwa l'observe tendrement, puis lâche.
Mon mari voulait cet enfant, il a beaucoup insisté, mais je ne suis toujours pas sûre que c'était une bonne idée. Parfois il pleure, il me réclame, mais je l'ignore, parce que je dois travailler. La vie en Turquie est très difficile, beaucoup de femmes ont perdu leur mari et n'ont aucun moyen pour élever leurs enfants. Nous les Syriens devons nous entraider. Ici au café, je vends les plats de pauvres Syriennes, elles cuisinent chez elles parce qu'elles ne peuvent pas laisser leurs enfants seuls et sortir de chez elles pour travailler.
Najwa, comme Noura, attendait plus de la Turquie. Un logement, un salaire peut-être. Ni l'une ni l'autre ne songe pourtant à l'Europe. Trop difficile pour Noura, trop loin de la Syrie pour Najwa.
Ici ou en Europe, c'est la même chose. Vous serez toujours un réfugié. Je ne veux pas m'éloigner de la Syrie. J'ai toujours de la famille, des proches en Syrie. J'ai peur d'oublier mon pays, d'oublier la révolution, d'oublier mes proches là-bas. C'est dangereux, j'espère rentrer en Syrie.
Comme toutes les mères du monde, ces deux femmes ont des rêves pour leurs jeunes enfants. Noura.
Je veux que mes filles étudient, qu'elles prennent leurs propres décisions. Je ne crois plus au retour en Syrie. Il n'y a plus rien là-bas. Plus de maison, plus de travail, tout est détruit. Même si la guerre s'arrête demain, il faudra 15 ou 20 ans pour reconstruire le pays. Pour l'avenir de nos filles, il vaut mieux rester en Turquie.
Quant à Najwa, elle fixe ses yeux tristes, ombrés de kohl très noirs, sur le petit Yazan, qui tambourine gaiement sur les tables du café.
Moi, je veux que mon fils puisse rentrer dans son pays, qu'il défende son pays, sa terre, son peuple. Je veux qu'il soit un héros. Mais un jour, mon fils grandira, un jour, il ouvrira les yeux, il comprendra qu'il est un réfugié, qu'il a perdu ses grands-parents, qu'il n'a pas de frères et sœurs.
L'avenir de son garçon et celui de son pays, Najwa y pense tout le temps. C'est pour cela, dit-elle, qu'elle a perdu le sourire.
On l'a entendu dans le reportage d'Anne Andlauer. 152 000 enfants de parents syriens sont nés l'an dernier sur le sol turc. Incroyable vitalité d'une communauté que les autorités cherchent constamment à ramener vers les camps de réfugiés au plus proche de la frontière syrienne. C'est ce qu'a expliqué le chercheur Jean-François Pérouse à Catherine Roland.
C'est très très impressionnant, cette natalité quoi, des réfugiés syriens. C'est frappant dans toutes les villes de Turquie. Alors il y a des rafles périodiquement. D'Istanbul par exemple, ils sont reconduits à la frontière, mais ils reviennent. Et c'est vraiment très 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 impressionnant. Il y a une intégration formidable en fait. Et ils sont nombreux, des Syriens qui ont un capital universitaire, qui ont eu des compétences, qui connaissent des langues étrangères. Il faut rendre compte qu'actuellement en Turquie, il y a plus de 100 000 entreprises qui ont été créées par des citoyens syriens, donc qui participent à l'économie turque. Il faut bien voir que sur ces 2,7 millions, vous en avez à peine un tiers qui se trouve dans les camps, les camps qui sont au sud-est, mais dans un sens très, très large, et le reste est dispersé. Et le grand changement de ces 2-3 derniers mois, c'est l'accélération des passages vers la Grèce par la mer, par la mer Égée.
On va en parler justement avec le nouveau sommet Union européenne-Turquie pour parler intense, pour finalement, certains critiques, sous-traiter cette question, même la déléguer à la Turquie.
Voilà, l'idée est de refouler vers la Turquie les dizaines de milliers, voire les centaines de milliers de réfugiés syriens qui sont actuellement en Grèce. L'administration grecque n'a pas la possibilité de traiter les dossiers conformément aux normes européennes. Elle peut en traiter seulement, c'est dérisoire, 1500 par an, alors qu'on a maintenant des flux pour les trois derniers mois, plus de 230 000 Syriens qui sont passés par la mer. Donc voilà, l'idée c'est de confier à la Turquie, en lui donnant les moyens pour ça, la gestion de ces réfugiés. Alors c'est quand même une option qui peut être discutée.
Oui, justement, l'option est très discutée, voire critiquée, parce que notamment les ONG, Human Rights Watch, par exemple, s'insurgent totalement contre l'accord en disant que c'est en contradiction totale avec le droit international pour les réfugiés.
Oui, absolument, parce que c'est un peu se défausser d'un dossier pour le moins lourd et délicat, et l'Union européenne, là, n'assume pas ses responsabilités, comme elle devra le faire.
Ouais, et les critiques viennent aussi de l'intérieur, de l'intérieur de la Turquie, comme le rédacteur en chef du journal d'opposition Cumhuriyet. Il accuse, lui, carrément l'Union européenne d'avoir abandonné tous ceux qui se battent pour les libertés en Turquie.
Oui, on assiste vraiment à une détérioration de la situation des libertés, une extension du concept de terroriste et une criminalisation systématique de toute forme d'opposition politique. Donc, les avocats sont arrêtés, les universitaires sont... certains ont été arrêtés, certains sont en prison. Il y en a plusieurs, d'autres ont été expulsés. Un collègue britannique qui vivait et travaillait en Turquie depuis 20 ans a été expulsé comme un malpropre, alors que c'est un homme qui a vraiment donné une partie de sa vie à l'enseignement en Turquie, dans une nouvelle université. Bref, alors évidemment, les attentats d'Ankara, le dernier en date...
Donne raison à Erdogan.
Voilà, et permet de criminaliser et de qualifier de terroriste toute forme d'opposition. Et donc là, effectivement, l'Union européenne est pieds et mains liés et fait des concessions sur la question des libertés parce qu'elle attend beaucoup de la Turquie sur le dossier des réfugiés syriens.
Jean-François Pérouse, co-auteur avec Nicolas Cheviron d'Erdogan, nouveau père de la Turquie, une biographie du président turc dont nous reparlerons très prochainement. Au printemps 2015, les électeurs irlandais avaient créé la surprise en votant en majorité pour la légalisation du mariage gay dans ce pays très catholique et réputé très traditionnel. Plus d'un an plus tard, comment le pays et la communauté gay et lesbienne vivent-ils ce changement ? 400 couples de même sexe se sont déjà dit oui devant monsieur ou madame le maire en Irlande. Sébastien Duval a retrouvé le tout premier d'entre eux. Commentaire Simon Rosé.
Richard, do you take Cormac to be your lawful wedded spouse?
Le jour venait à peine de se lever lorsque Cormac Gologly et Richard Howling ont échangé leurs vœux entre les murs jaunâtres du centre communautaire de Clonmel, une petite ville du sud de l'Irlande. Les deux hommes sont officiellement devenus le 17 novembre dernier le premier couple homosexuel à se marier en Irlande. Très solennel dans leurs costumes élégants, ils n'ont pas pu s'empêcher de rire lorsque l'officier d'état civil a prononcé ces mots.
En vertu des pouvoirs qui me sont conférés par la loi de 2015, je vous déclare désormais... Qu'est-ce que je dois dire ? Félicitations, je vous déclare mari et mari.
On les retrouve 6 mois plus tard dans un bar branché du centre-ville de Dublin, où ils se sont rencontrés il y a une douzaine d'années. Cormac, qui a vécu quelques mois en Bretagne dans sa jeunesse, garde un souvenir ému de cette journée pas comme les autres.
C'était magnifique, c'était une journée très très importante pour nous et pour l'Irlande. Quand Richard et moi, on travaille, c'est plus facile maintenant non, d'être annoncé en mariage, ensemble, en couple. Avant, c'était un peu comme un secret. Mais maintenant, nous sommes très courageux et confiants dans notre unité.
Assis à ses côtés, Richard confirme avoir ressenti lui aussi un changement d'attitude depuis le référendum de l'an dernier.
L'Irlande a énormément changé. On voit de plus en plus de couples gays se tenir la main dans la rue et plus personne ne semble y prêter attention. Les homosexuels sont également beaucoup mieux représentés dans les médias, que ce soit dans la publicité ou les articles de presse. C'est important et c'est encourageant de voir à quel point la jeunesse irlandaise accepte l'homosexualité. Ce sont les parents de la prochaine génération, donc les choses ne peuvent que continuer à s'améliorer.
Les bureaux de Glen, une association LGBT, se trouvent à quelques dizaines de mètres des grilles du château de Dublin. C'est là que la foule s'était rassemblée au lendemain du référendum il y a un an pour en célébrer le résultat historique. Selon Tiernan Brady, l'un des responsables de l'association, il existe désormais en Irlande un avant et un après référendum.
Le risque était énorme en cas de victoire du non, mais le retentissement n'aurait pas été le même si la loi était passée via le Parlement ou les tribunaux. Ce vote dépasse le simple cadre du mariage. Il a eu un impact considérable sur de nombreuses familles et communautés, et il a donné tout un coup une visibilité à beaucoup de gens. Imaginez être une lesbienne dans un village de 500 habitants qui a voté oui. Cela ne veut pas seulement dire qu'ils ont reconnu votre droit à vous marier, mais aussi qu'ils vous voient et qu'ils vous acceptent parmi eux.
Tiernan Brady s'est rendu dernièrement au Japon et en Australie afin d'y partager les secrets de la campagne irlandaise pour le mariage homosexuel. Ce serait cependant une erreur, selon lui, de vouloir faire de l'Irlande un modèle.
Ce serait arrogant de penser que nous avons trouvé la solution miracle. Nous avons réalisé quelque chose de spécial, mais tous les pays sont différents. Notre campagne ne peut pas être reproduite à l'identique ailleurs, mais il y a tout de même des leçons à en tirer. L'Irlande est un pays religieux qui a voté pour le mariage homosexuel sans en faire une question de religion. Ce n'était pas un référendum « Dieu contre les gays », et c'est quelque chose dont de nombreux pays peuvent s'inspirer à travers le monde.
Le Labour Party irlandais a organisé récemment une soirée d'échange sur les leçons à tirer du référendum de mai 2015. Une bataille a été gagnée l'an dernier, mais il reste encore des progrès à faire, notamment sur le front professionnel. Anne-Marie Lillis est responsable de la section LGBT d'un syndicat d'enseignants.
Plus de 90% de nos écoles primaires sont religieuses et ces dernières étaient autorisées jusqu'ici à prendre toutes les actions nécessaires pour faire respecter la morale de l'établissement. On ne savait pas, par exemple, s'il était possible de parler de son partenaire ou de sa famille dans la salle des profs, comme tous les autres. J'ai même envisagé à un moment de quitter l'enseignement, mais ça a changé heureusement et j'espère que d'autres changements vont venir pour les enseignants LGBT.
La lente transformation de la société irlandaise pourrait bientôt connaître une nouvelle étape. L'un des hommes politiques les plus populaires du pays, Leo Varadkar, ouvertement gay, semble promis un jour au poste de Premier ministre.
Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Guillaume Munier. Retrouvez-nous sur notre site rfi.fr.
Autour de la question.